Le plan de mon exposé est le suivant. D'abord...
Mario Café !
Chaque année, 10 millions de Français les consultent.
88.3 FM !
Y compris les hommes politiques.
Dans ta
face ! Il y a le feu à l'agence de voyage. Inutile de s'y rendre.
Radio Campus Orléans, 88.3 FM.
John Lennon, Justice, Jesus, America displeases. Don't let Halle Berry drive your car. The Duke of Canterbury is seeking sanctuary. Being liked will never get you far.
Kids drink.
Thank you. Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres. Qu'est-ce que se passe-t-il ici au juste ? Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres, de toutes les disciplines, sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues, des interviews longues de créateurs sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotat à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire.
Bonsoir, Karl. Ce soir, nous parlons d'écologie, mais l'écologie...
Non, d'abord, on est en retard, on s'excuse.
D'abord, on est en retard, on s'excuse. Je m'étais dit que ça allait passer inaperçu et que personne n'allait s'en apercevoir parce qu'on n'a plus forcément de montres à nos poignets ou de grandes pendules de nos grands-mères qui trônent dans nos salons, qui fait tic-tac. Et... oh, je m'étais dit inaperçu. Bon, toutes nos excuses pour ce retard, on avait des excuses valables. Nous parlons ce soir d'écologie au défi des classes populaires par ce livre écrit par un journaliste de l'Obs qui s'occupe justement des pages écologie depuis très longtemps dans ce magazine. Ça s'appelle « Les vipères ne tombent pas du ciel ». Vous comprendrez le titre un peu plus tard dans l'interview. Il s'agirait d'une rumeur en 1976 qui donne ce titre à cet essai qui s'intéresse particulièrement aux relations entre les classes populaires en France et les questions écologiques et notamment de catastrophes bioclimatiques. Et ce livre renverse vraiment la table, il ouvre de nouvelles optiques et les préconisations qu'il offre notamment aux différents mouvements écologiques politiques en France sont vraiment à suivre. C'est un livre que je voulais vraiment faire connaître à cette émission du fictionnaire. Karl, que vas-tu nous faire connaître musicalement ce soir ?
Bah rien, vous connaissez tout déjà. Hein, avec Spotify.
Mais, ouais, dit comme ça, c'est malheureux. Pourtant, j'ai l'impression que ce que tu nous passes, on le trouve pas forcément sur Spotify.
Ah, hein. Bah, ça serait intéressant, justement, de chercher, tiens. Parce que c'est quand même pas non plus obscur, même si c'est sorti sur le label Les Disques du Soleil et de l'Acier. Ce disque est en fait la bande originale d'un journal filmé de Wim Wenders. C'est la musique originale de Tokyo Ga. Ja, je sais pas comment on dit, Ga plutôt, je pense. Et le groupe qui a composé ce truc s'appelle Dick Tracy. C'est plutôt un groupe éphémère composé de trois personnes, Chico Royo Ortega, Laurent Petitgant et Mesh Mamsier. Voilà. Et on va écouter, c'est un peu une thématique synthé ce soir, on va écouter un début un peu ambiante et puis ça se déstructure avec un saxo foufou et puis l'interview après.
Et c'est sur du vinyle, émission du fictionnaire, Radio Campus Orléans. Oh, je continue un peu. Quand est-ce que c'est le début du synthé qui commence ? Radio Campus.
Que se passe-t-il ici au juste ? Que se passe-t-il ici au juste ? Je suis en compagnie d'Eric Eschiman. Merci beaucoup de me recevoir. Nous parlons de « Les vipères ne tombent pas du ciel », sous-titré « L'écologie au défi des classes populaires », qui vient de paraître aux éditions « Les liens qui libèrent ». Peut-être pouvons-nous commencer par les petits gestes, j'ai envie de faire les guillemets en plus avec mes doigts, les petits gestes et l'anatomie critique que vous en faites.
Oui, ben d'abord merci de me recevoir et pour cette discussion qui s'engage. Les petits gestes, j'ai voulu prendre le temps d'examiner ce sujet qui est souvent brandi par les adversaires de l'écologie comme quelque chose de particulièrement agaçant. Mon point de départ, c'était pourquoi l'écologie agace autant. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle agace. Et la première raison qui vient, c'est qu'on a l'impression qu'elle fait la morale aux gens. Et cette morale prend souvent la forme d'injonctions à des petits gestes. Et d'autre part, du côté du monde écolo, il y a une défense des petits gestes, un attachement. Et j'ai voulu prendre ces deux éléments et essayer d'ouvrir le capot de cette discussion. Alors, le premier point essentiel sur les petits gestes, c'est que les évaluations, c'est compliqué de dire que c'est des évaluations extrêmement scientifiques parce que on est plutôt dans les comportements, enfin dans la question de comment fonctionne une société. Mais les évaluations calcule que s'il y a une étude plus précise faite par le Carbon 4, le cabinet de Jean-Marc Jancovici, calcule que si une partie très significative de la population, ce qu'ils appellent le scénario héroïque, adoptait des comportements héroïques, c'est-à-dire vraiment ne plus manger de viande, ne plus prendre sa voiture, ne plus prendre l'avion, baisser le chauffage, etc., on ne réduirait les émissions de CO2 que de 20 à 25%. Donc, on se sent sur la question là de la crise climatique, hein, puisque l'autre gros sujet c'est la biodiversité. Mais en se centrant sur la crise climatique, on a un chemin à faire, on a un objectif qui est de réduire les émissions de CO2 à zéro, afin de stopper le réchauffement climatique. Pour faire ce chemin, et d'autres organismes ont à peu près la même évaluation, pour faire ce chemin, les petits gestes représentent 20 à 25% du trajet. Alors on peut dire c'est pas mal, c'est déjà pas mal, faisons-les, mais on peut dire aussi les autres, les 75 à 80% restants, c'est pas des petits gestes, c'est quoi ? C'est des réorganisations, ce que j'ai appelé les réorganisations des systèmes sociotechniques, enfin, je l'ai appelé parce que c'est le terme qu'on donne, qui doivent être réorganisées par l'État en coordination, mais surtout en contrainte sur les entreprises. L'État doit réorganiser la configuration des véhicules, des automobiles, pour que les automobiles pas chers soient mises à disposition des gens qui en ont besoin pour se déplacer, et que ce soit des voitures électriques. Donc, les petits gestes, moi j'estime, ma proposition, c'est qu'on les fera à la fin. Il y aura sûrement, dans tout ce trajet de décarbonation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y aura probablement à la fin, quand on aura fait tout ce qu'on peut faire au niveau de l'organisation sociale et de la contrainte qu'on va faire peser sur les entreprises, à la fin, il y aura sûrement des choses qui relèveront du comportement individuel. Par exemple, l'avion, c'est 5 à 6% des émissions de CO2 de mémoire. Donc, il restera la question de l'avion hors des classes, des voyages d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens dont la famille est à l'étranger, etc. Il pourrait y avoir une discussion démocratique. Mais faisons débat d'abord, c'est vraiment ma proposition, les 75 à 80%. Ça a deux intérêts, ça enlève le côté moralisateur de l'écologie, c'est parce que ce côté moralisateur, il individualise l'écologie, il en fait un problème personnel qui se pose à chacun d'entre nous, comme si le matin, au réveil, chacun pouvait décider ou pas d'émettre du CO2 ou pas. Ah, ce matin, je ne vais pas émettre du CO2 parce que je pense qu'il y a une crise écologique. Mais non, si vous habitez dans un pavillon qui a été dans un lotissement où tout a été fait pour vous y installer, l'urbanisme, les prêts des banques, l'organisation foncière, l'organisation des transports en commun, où on a construit ce lotissement alors qu'il n'y avait pas de transport en commun, on l'a construit loin des villes, et vous pouvez pas aller en ville parce que l'organisation du marché du logement, c'est que vous n'avez pas les moyens de vous loger en ville. En fait, tout est fait pour que vous habitiez loin et que pour aller au travail, poser les enfants à l'école, faire les courses, aller voir vos parents qui ont besoin d'aide, et aller voir vos amis, aller au théâtre, aller au sport, etc. Vous avez besoin d'une voiture. Donc on va pas dire aux gens, prenez moins la voiture, c'est-à-dire allez moins au travail, allez moins au sport, allez moins voir vos parents, etc. Donc on pourrait même formuler dans l'autre sens. Il y aurait ensemble des petits gestes d'émission de CO2. C'est comme si les gens décidaient d'émettre du CO2 et donc ils pourraient décider de ne pas. Donc voilà, les petits gestes, non. Alors ensuite, les petits gestes, ils ont un intérêt entre soi et soi. Chacun peut décider, quand il a une marge de manœuvre liée à ça, par exemple, de ne pas prendre l'avion. Bon, moi, c'est mon cas, mais j'ai pas de famille à l'étranger non plus. Je sais pas, je vais pas faire la morale aux gens qui n'ont pas de famille, qui ont une famille à l'étranger. On peut décider de rouler en vélo, de ne plus avoir de voiture. C'est des choses extrêmement respectables, de ne pas manger de viande. Et chacun les fait. Je ne vais pas me mettre en avant. Il y a des choses que je fais, d'autres que je ne fais pas. Et dans mon entourage, il y a des gens qui font certaines choses, d'autres pas. Je pense que c'est entre soi et soi, parce qu'on a envie d'être aligné, d'être cohérent avec soi-même. C'est de l'ordre de l'éthique personnelle, mais ça ne peut pas fonder une proposition politique. La proposition politique, elle ne peut porter que sur l'organisation de la vie collective. Et ça, c'est pas des petits gestes.
Et puis, il y a aussi quelque chose que vous mettez vraiment particulièrement en avant, c'est que ces petits gestes sont aussi des marqueurs de classe. Vous avez commencé à en parler avec les familles qui habitent dans des pavillons. Mais c'est cela que vous mettez vraiment en avant. Ce sont des marqueurs de classe. Pause.
Ça va arriver deux, trois fois.
Vous inquiétez pas, je note à chaque fois.
Absolument. Pour deux raisons. D'abord parce que, on vient de le voir, pour pratiquer des petits gestes, il faut avoir le choix. Donc ça nécessite déjà de ne pas être ce que les sociologues appellent un budget contraint. C'est une catégorie sociologique qui a émergé après les Gilets jaunes. Les sociologues se sont rendus compte qu'il y avait tout un tas de gens qui n'avaient juste pas les moyens de passer à la voiture électrique, d'isoler leur maison, de ne pas acheter de viande parce que c'est quand même en fait les protéines au final les moins chères et les plus rapides à préparer. Voilà, et donc vous pouvez pratiquer des petits gestes quand vous avez une marge de manœuvre économique. Et d'autre part, et ça c'est la sociologie là aussi qui l'a montré, notamment je m'appuie beaucoup sur les travaux de Jean-Baptiste Combi, les petits gestes renvoient a un habitus qui est typique de la classe bourgeoise intellectuelle. Un habitus, qui, c'est-à-dire un certain nombre de rapports au savoir, à l'auto-examen, au plaisir d'être expert de soi-même, de s'évaluer, ce plaisir d'être, de se dire là j'ai bien agi, si je fais ça, je fais ma part. Alors on pourrait trouver, faudrait faire probablement une histoire de pourquoi la bourgeoisie intellectuelle s'est constituée à travers ce genre de rapport. Là, il y a deux rapports très importants, c'est le rapport à l'auto-réflexivité et le rapport au savoir. Et les petits gestes, ça engage des savoirs qui sont des savoirs de type académique. Si je prends moins la voiture, j'ai moins de CO2, le CO2 c'est ce qui dans l'atmosphère retient les rayons qui repartent, que la Terre renvoie, donc du coup il reste, etc. Ce rapport académique, il est ce plaisir du rapport académique. Jean-Baptiste Combi parle d'un rapport enchanté au savoir. Il est typique de la classe diplômée, des gens qui ont aimé faire des études, qui ont aimé faire des diplômes et dont les métiers sont souvent en rapport avec ça. Et souvent, pour les classes populaires, l'expérience du diplôme n'est pas un moment, plus ou moins dans le diplôme, le rapport au savoir académique n'a pas été une expérience très heureuse. Alors, je ne suis pas du tout en train de mépriser les classes populaires parce qu'il y a des savoirs qui circulent qui sont très, très intéressants, très sophistiqués, très subtils et que les classes intellectuelles n'ont pas. Mais ce n'est pas ce savoir académique, en tout cas, il se recoupe. Pas exactement, il faut évidemment faire plein de nuances, mais en gros, il ne se recoupe pas. Et la façon dont la bourgeoisie intellectuelle met en scène ses savoirs, par exemple, aujourd'hui, je suis venu en vélo, tout le monde va l'applaudir. Eh bien oui, parce que vous pouvez venir en vélo parce que vous habitez dans le centre, enfin pas très loin du centre, parce que vous avez le temps de venir en vélo, parce que votre corps, vous n'avez pas un travail physique. Et votre corps, moi j'ai ma fille qui est menuisière, elle me raconte combien c'est fatigant une journée. Donc le vélo, c'est un effort de plus. Donc voilà, vous avez les moyens parce que votre corps va rester assis toute la journée sur un ordinateur. Puis vous avez le plaisir, de la satisfaction de vous dire « Ah ben là, je fais un bon geste ». Voilà, donc c'est un marqueur de classe, c'est un habitus. Et donc c'est perçu par les gens à qui on demande de faire ça et qui n'en ont pas les moyens, comme une agression. Vous devez vous comporter comme je vous dis, comme je me comporte moi et comme je vous dis qu'il est bon de se comporter. Donc, si vous ne le faites pas, vous êtes à nouveau en échec. Vous avez été un échec scolaire, vous le redevenez, vous êtes en échec écologique. Peut-être qu'on peut dire un mot là sur le titre du livre. J'ai appelé mon livre « Les vipères ne tombent pas du ciel », précisément parce que c'est une rumeur qui a couru dans les années 70 jusqu'au milieu des années 80 et qui met très bien en scène, qui illustre très bien cette tension autour du savoir académique. On est en 1976 et se met à circuler dans les campagnes françaises la rumeur qu'il y aurait des lâchers de vipères organisés par avion, organisés par les écologistes. C'est une rumeur documentée, puisqu'elle a même une page Wikipédia, il y a des articles. Moi j'ai retrouvé l'article de Libération qui avait fait une page là-dessus en 1981, ça a duré une petite dizaine d'années. Et il y a une sociologue qui, à la fin des années 80, a fait un travail vraiment de reconstitution systématique de cette rumeur. Et le point de départ, on est en 76, c'est la première loi de protection des animaux. Et parmi les animaux protégés, qui sont dans la liste de protection, il y a les vipères. Or, les vipères, dans les campagnes, c'est un nuisible que l'on combat depuis des décennies, depuis des générations. Vivre à la campagne, c'est vivre en se confrontant à une nature nuisible qu'on a repoussée. Du coup, il y aura un peu la même histoire avec le loup. Mais là, la vipère, c'est un animal avec lequel on cohabite, mais que l'on ne protège pas. D'ailleurs, les conseils généraux donnent des primes quand vous ramenez une vipère que vous avez tuée. Une vipère morte, c'est une prime. Et là, d'un coup, on vous dit... On n'a plus le droit de les tuer. Alors, qui est le on ? Le on, c'est une loi votée par le Parlement, sur le conseil des biologistes, des savants, des experts, un petit peu du monde écolo probablement, mais voilà, principalement des scientifiques. Et qui ont très probablement raison, je ne suis pas allé faire repeser le pour et le contre de cette décision, je pars du principe qu'évidemment ils ont eu raison, mais simplement, d'un coup on dit à des gens, pour qui la cohabitation avec la vipère a toujours été de cohabiter avec un nuisible, d'un coup on leur dit bah non, c'est cool en fait, la vipère, non, mais en fait c'est une amie, donc faut la protéger. Et c'est vraiment une décision qui tombe d'en haut, vraiment au sens littéral, et d'où la métaphore, d'où cette rumeur avec cet ajout de paravion, qui dit vraiment voilà, c'est une décision qui tombe d'en haut, que des gens de la haute, de la bourgeoisie intellectuelle, dans le monde des scientifiques, nous dit comment nous devons vivre, nous, dans nos campagnes, dans nos villages, dans nos champs, dans nos prés, dans nos chemins, etc. Alors, petit ajout, la loi de 76 prévoyait une dérogation pour les laboratoires pharmaceutiques, pour qu'elles puissent capturer des vipères, prendre le venin, les relâcher, et avec le venin, elle fabriquait du sérum. Donc il y a bien eu des lâchers de vipères, mais c'est pas par des écolos et c'était pas par avion. Voilà, donc cette sensation d'être agressé par des gens qui, en ville, urbains, diplômés, vous disent comment vous devez vivre, je crois qu'elle a déjà été là. Et d'ailleurs, à l'époque, les associations écolo avaient très mal réagi. On le voit, elles réagissent en disant « Non, mais c'est n'importe quoi, c'est hystérique, les gens qui racontent ça sont fragiles psychologiquement, délégitimes. » Alors que ça aurait été intéressant d'entendre cette parole, de dire « Mais pourquoi vous dites ça ?» sans lâcher sur l'objectif. Mais attendez, on va discuter, peut-être on aurait fait un moratoire d'un an, j'en sais rien. Mais ce côté, les décisions... Moi, je pense profondément que... à la Jacques Rancière, que toutes les voix comptent, que dans une démocratie, il faut écouter tout le monde, et qu'avant de prendre une décision, eh bien, il faut prendre le temps. Ça, c'est vraiment très important, ce qui ne veut pas dire de lâcher sur l'objectif, hein. De lâcher sur ses convictions, mais il faut prendre le temps. Voilà, donc un habitus qui se confronte à un autre habitus, celui des classes populaires, qui va être par exemple, ou alors je parlais de l'habitus de considérer la vipère comme un nuisible, mais ça va être l'habitus d'avoir sa voiture comme un lieu où on est au moins à l'abri de la pluie, du vent, où on est un peu tranquille, où on écoute de la musique, où on va téléphoner, et puis d'un coup on vous dit, ah ben non, la voiture c'est pas bien, la maison, ok, on vous a dit que vous pouviez pas habiter en centre-ville parce que les prix sont trop chers, mais la maison, votre maison elle est pas bien, en même temps c'est devenu un habitus, le pavillon, ça l'était pas il y a 80 ans, mais ça s'est construit comme un habitus, et les gens des classes populaires qui ont quand même des vies difficiles, où il y a une pression permanente de l'employeur, de l'État, à l'école, tout ça, vous êtes quand même, c'est pas très agréable, hein, on vous met beaucoup la pression, on vous dévalorise en permanence. Mais ils ont construit un endroit où ils se protègent, c'est leur habitus. Le week-end et le dimanche, ils font un barbecue, et on leur dit, ta voiture, ta maison, ton loisir, c'est pourri. Donc, leur habitus est dans l'espace public, considéré comme n'ayant pas de valeur. Ben, évidemment, ça leur fait pas plaisir.
Alors continuons ce fil rouge de l'habitus et de cette tension entre les savoirs académiques et les savoirs vernaculaires, c'est-à-dire les savoirs des classes populaires, parce que vous évoquez ce problème, vous parlez des pavillons, et on peut prendre le problème du système de chauffage. Ça peut être un bon exemple pour expliquer comment... dans le savoir notamment de ces classes populaires, il y a les pratiques manuelles, et notamment des pratiques qui vont être très utiles de réparation, d'entretien, des outils d'entretien des machines. Le problème, par exemple, avec la voiture électrique, c'est qu'elle ne s'entretient pas par soi-même. Donc, il y a une sorte de perte de savoir manuel. Et c'est le cas pour les systèmes de chauffage. Vous expliquiez bien que le système de chauffage dans lequel nos sociétés placent tant d'espoir pour limiter nos impacts sur le climat, c'est la pompe à chaleur. Mais la pompe à chaleur, c'est une boîte noire à laquelle on comprend rien. C'est-à-dire que c'est l'inverse d'une technologie conviviale, et là vous ressortez bien entendu les théoriciens que nous connaissons bien, André Gors, Ivan Illich, avec ce concept de technique conviviale. Pouvez-vous continuer sur ce sujet-là, c'est-à-dire la manière dont des mesures technocratiques, qui sont défendues notamment par les ONG, devraient systématiquement être évaluées à cette aune? Est-ce qu'elles s'articulent aux pratiques manuelles déjà existantes au sein des classes populaires?
Bah écoutez, vous avez déjà dit une bonne part, mais je vais un peu reprendre et développer. La première chose que j'ai envie de dire, que ce qui est formidable avec l'écologie, là je fais une petite parenthèse, mais faisons, accordons-nous ce plaisir, c'est que ça nous amène à descendre dans la matérialité du monde, sa plus granulaire, dans le détail. Et la philosophie. Il y a eu un premier temps de l'écologie dans les années 70 qui a été incarné par des philosophes. Vous venez de le dire, Jacques Ellul, Ivan Illich, André Gortz, notamment, Serge Moscovici et d'autres, et qui sont des gens qui s'intéressaient à des choses très concrètes. Et puis ça s'est un peu perdu. La déconstruction, tout ce qui s'est passé sur la philosophie politique, c'est des choses hyper intéressantes, même sur le vivant, tout ça, mais ça s'est un peu perdu. Et la question écologique, telle qu'elle revient aujourd'hui, permet, enfin moi je trouve que c'est très intéressant qu'elle dise à la philosophie, reviens voir là, vraiment très concrètement, comment ça marche, comment je me chauffe, comment je me nourris, comment je me déplace. Alors, comment je me chauffe ? J'avais deux pièces, j'avais comme deux pièces de puzzle, et j'ai réussi à les emboîter, donc évidemment c'est très satisfaisant. L'une c'était donc la pensée des années 70,
Et le 1 et le 2, et ben ça sera juste après quand même un petit morceau de musique pour se détendre dans ce discours très très intéressant d'Eric Hachiman. J'aime beaucoup son livre et cette interview particulièrement, et j'espère comme ça pouvoir donner envie qu'il soit acheté pour mettre sous le sapin pour offrir à la famille, à la belle famille, parce que c'est un livre qui se lit vraiment vraiment bien. En plus, il est pas jargonnant, j'aime bien, ouais. Et toi, Karl, tu...
Je sais pas, je te trouve très bon vendeur, en tout cas.
Faut penser aux cadeaux.
Eh oui, c'est important.
Je déteste Noël. vraiment.
Pareil, je sais pas si on va se détendre, mais voilà donc le deuxième volume de White Noise. White Noise, c'est un groupe qu'on avait diffusé peut-être plusieurs fois, je pense, dans l'émission de littérature au moins. Formation autour du laboratoire de la BBC, donc des gens qui mettent la main dans des synthétiseurs modulaires et autres bestioles qui font de la musique, et on y retrouve notamment Monsieur David Vorhaus, qui est un peu celui qui va rester en fait après le premier album de White Noise, où on avait aussi Delia Derbyshire qui faisait partie du BBC, et aussi Brian Hodgson qui était le fondateur. Donc le deuxième album, il arrive 5 ans après le premier, genre 75, le premier en 70, 69 par là. Et du coup, vous allez voir, David est tout seul et il va faire un concerto en fait pour synthétiseur pendant les deux phases du disque. Et c'est assez marrant. Voilà, on va s'écouter ça, bien sûr, un petit extrait, puis on retourne sur l'interview après.
Émission du Fictionnaire, Radio Campus Orléans.
j'insiste vraiment sur votre grand geste dans ce livre, c'est de justement reprendre à bras-le-corps les pensées des penseurs de l'écologie des années 60-70, André Gortz et Ivan Illich notamment, et de relier cela à l'aspiration à l'autonomie des classes populaires. Ça, vraiment, je veux le singulariser. C'est tout de même un grand geste qui vous appartient à vous. C'est-à-dire, c'est quand même votre propre découverte. On comprend maintenant, avec toute la conversation qu'on a eue ensemble, Eric et Schiemann, qu'on a affaire soit à une écologie moralisatrice, soit à une écologie technocratique, et que c'est les deux ensemble, c'est ainsi qu'elle est perçue, à la fois écologie moralisatrice, c'est la politique des petits gestes, à la fois une écologie technocratique qui vient d'en haut, le fameux coup des vipères, elles tombent d'avion parce que c'est décidé par le haut, par le ciel, et donc une écologie punitive. C'est ça le mot, et c'est ça le reproche, en fait, la perception. Le problème, c'est que c'est une écologie perçue comme étant punitive, et donc c'est un rejet de l'écologie. Parce qu'en fait, le constat au départ de votre livre, c'est celui-ci. Mais pourquoi donc il y a un rejet aussi important pour plutôt, on va dire, une pensée de droite, pour la pensée de droite centriste, mais aussi extrême droite et extrême droite? Pourquoi il y a ce rejet à ce point-là de l'écologie? Et c'est la base du départ de votre livre.
Absolument. Je voulais ne pas fermer les yeux sur les différents éléments qui composent ce backlash. Parce qu'il y a deux dimensions, et il y en a une que nous, écologistes, parce que je me mets dedans, mettons en avant, c'est que nous avons des adversaires qui n'ont pas du tout l'intention de baisser les armes, parce que un monde qui pollue, c'est un monde qui leur apporte des profits. C'est ce que Anselme Japp appelle la classe profitante, qu'on appelle souvent la classe dominante, parce que les entreprises qui polluent ou qui fabriquent des objets avec lesquels nous serons conduits nécessairement à polluer, avec lesquels nous n'aurons pas le choix de ne pas polluer, eh ben, ces entreprises, elles font ça parce que c'est du profit. Alors, et ces entreprises, elles n'ont pas l'intention de lâcher ces sources de profit. Donc évidemment, c'est l'industrie du pétrole, de la voiture, etc. Mais aussi du BTP. Enfin, on le voit, on n'a qu'à voir toute l'actualité, tous les combats écologiques. On voit bien qui est en face. Et donc ces gens-là freinent des cas de fer, y compris par des actions de lobbying et y compris par des fake news qui sont diffusées. Alors il y a toute une gamme d'interventions. Tout le monde ne dit pas que des choses en... Enfin, je ne suis pas complotiste, donc il n'y a pas un grand complot. Il n'y a pas un grand complot, mais il y a une multitude d'actions et qui conduit certains acteurs à dire absolument n'importe quoi en toute connaissance de cause. Donc ce combat-là, il est y compris mené, j'en parle un peu dans le livre quand même, il a des relais dans les classes profitantes, que ce soit dans les hautes fonctions publiques. On voit comment une partie de la classe politique et des hauts fonctionnaires ont du mal à accepter ce sujet. Aussi dans la classe académique. Il y a vraiment des responsables, c'est vraiment frappant de voir comme certaines institutions ne veulent pas entendre ça. Voilà, donc ces gens-là, et puis la classe médiatique, évidemment, on peut penser à Pascal Pro, CNews, etc., et on voit bien qui est derrière, Bolloré, voilà, donc tout ça fait système. Nous avons des adversaires qui sont très puissants, ça a toujours été le cas de tous les mouvements populaires, et qui n'ont pas l'intention de nous faire de cadeaux, et qui ne sont pas sympas, et donc... Évidemment, c'est la première cause du backlash, puisque au début, ils n'ont pas forcément compris, puis maintenant, ils déploient toutes leurs forces. Mais en fait, on peut dénoncer ça, il faut, mais si on attend, si on ne fait que ça, ça veut dire qu'implicitement, on attend que, on espère qu'en le dénonçant, ils vont arrêter de le faire. Et ça, on aura beau le dénoncer autant qu'on veut, ils n'arrêteront pas de le faire. Donc, on sera toujours confronté à cet adversaire-là. Et donc, il faut construire un rapport de force contre cet adversaire, et je ne vois pas comment le construire autrement qu'en constituant une majorité politique. Donc, aussi à un moment, une majorité électorale. Je sais bien qu'il y a des minorités actives qui peuvent faire un super travail. Ça a été un moment le régime d'existence de l'écologie. Aujourd'hui, je pense que c'est très bien qu'il y en ait encore, mais elle ne peut plus être que dans une logique de minorité active. Il faut aussi qu'elle construise une majorité politique et sociale. Et pour ça, il faut qu'elle s'intéresse pas, ça peut pas être que la bourgeoisie intellectuelle qui a pris conscience, entre guillemets, puisqu'elle est sur ce registre-là de l'âme. Toujours dans ce rapport à elle-même, j'ai pris conscience, voilà. Mais elle doit construire des alliances avec, avec une partie de la population qui ne sera pas sur le mode de la prise de conscience, mais qui sera sur le mode des intérêts et de la décision collective. Donc il faut que l'écologie sorte de sa grammaire des comportements, des modes de vie, pour aller vers une écologie des systèmes sociotechniques permettant de faire des propositions concrètes qui disent c'est vraiment le travail de conviction classique d'un projet politique qui arrive à dire à une majorité, vous avez intérêt pour vous-même et pour la collectivité, parce que les gens n'agissent pas que pour leur intérêt individuel, il y a aussi ce qu'on appelle l'économie morale des classes populaires, il y a aussi un souci de la communauté, pour l'intérêt, votre intérêt à vous et pour l'intérêt collectif, par exemple, réduire les tailles des voitures, les électrifier, les organiser éventuellement sous forme de, bon c'est une des idées que je défends, sous forme de voitures à loyer modéré sur le modèle du HLM, démarchandiser une partie de la production de la voiture, mais prenons, ça peut être l'agriculture aussi, réorganiser les systèmes pour que vous, agricoles et alimentaires, pour que dans les supermarchés, ce que vous ayez à acheter pas cher, ça soit de la nourriture de bonne qualité, sans pesticides, qui ne vous mettent pas en danger sur le plan de votre santé et qui ne polluent pas. Voilà, il faut faire ces propositions-là, il faut faire ce travail électoral.
Et là, soudain, j'ai envie de tout couper et de vous dire, mais au fait, quelle est l'opinion des Français ? Parce que c'est toute une partie de votre livre. Vous êtes posé la question, mais quelle est donc l'opinion des Français ? Et les études d'opinion que vous avez consultées vous poussent à une vision relativement optimiste de l'opinion française en la matière.
Ouais, et oui, et là aussi, c'est fascinant de voir comme l'habitus de la bourgeoisie intellectuelle revient, qui est tout de suite prêt à se désespérer des classes populaires en disant « Non mais en fait, ils comprennent rien, ils veulent rien savoir, mais regardez, il y a de plus en plus de climato-sceptiques, c'est catastrophique, les médias ne font pas leur travail, l'école ne fait pas son travail, comme si... » Encore une fois, c'est hyper valorisant pour la classe, pour la bourgeoisie intellectuelle. C'est en fait, elle, du coup, ça lui ouvre un champ d'intervention avec moi, je me place du bon côté du savoir et eux, c'est quand même toujours les mêmes, c'est les pauvres, les défavorisés. Regardez, ils sont du mauvais côté du savoir. Or, c'est pas ce que montrent les sondages. Alors, il y a des bougées dans les sondages. Donc, quand l'idée que le réchauffement climatique n'est pas entièrement d'origine humaine, quand cette idée-là remonte de 3, 4, 5 points, on dit « Oh là là, regardez, c'est catastrophique, la montée du climato-scepticisme ». Donc on peut lire les sondages comme ça, mais maintenant je commence à avoir un peu une familiarité avec cet univers des sondages sur l'écologie. La ligne de fond, c'est qu'il y a une inquiétude forte, marquée pour les deux tiers de la population, qui voient le changement climatique, qui voient les risques sanitaires des pesticides, qui en font l'expérience et qui sont pas dans le doute au sens d'un scepticisme « Ah non, mais j'y crois pas à votre truc ». En revanche, ces mêmes gens, l'écologie, c'est pas leur seul, c'est pas le seul paramètre de leur vie. Ils ont des enjeux de santé, d'accès à l'hôpital, ils vivent dans les déserts médicaux, ils ont des enjeux pour leurs enfants, pour l'école, ils ont des enjeux d'emploi, de pouvoir d'achat, de pouvoir se déplacer pour aller au travail, de chômage, de sécurité. Donc ils ont plein d'enjeux. Il y a aussi le bruit qui est fabriqué par certains médias autour des enjeux de sécurité et de délinquance et d'immigration. Mais même en dehors du bruit, ils ont des raisons objectives de ne pas faire de l'écologie leur seul paramètre et même leur premier paramètre. Quand vous êtes dans un budget contraint, votre premier paramètre, c'est pas de sauver la planète, on l'a suffisamment dit, c'est pas la fin du monde, c'est la fin du mois. Mais ça veut pas dire que les deux ne peuvent pas s'articuler, simplement, faut pas. Il y a une tentation d'aller voir les gens en disant, mais vous êtes bien d'accord, hein, c'est grave, hein. Ah, oui, mais bon, regardez, il a dit que c'était pas vraiment grave. Voilà. Faut arrêter ces questions très paternalistes où on va vérifier que les gens valident bien le fait que le réchauffement est d'origine humaine. Mais pour qui on se prend, quoi. C'est pas, enfin, je pense que c'est pas comme ça qu'on construit une discussion démocratique. En revanche, les études d'opinion montrent qu'il y a en gros comme ça deux tiers de la population qui inquiète et pour qui il y a pas de doute. J'aime pas trop le mot doute parce qu'il peut avoir un double sens. Mais ils ont des doutes sur, par exemple, quand on leur fait de la publicité de la voiture électrique, ils ont l'impression qu'on les baratine parce qu'on veut leur vendre des nouveaux modèles parce qu'ils sont chers. Et puis surtout, il y a 30 ans, on leur a dit qu'il fallait passer au diesel. Il y a 15 ans, on leur a dit qu'il fallait passer au biocarburant. Et puis finalement, on a changé le diesel. On a dit que le diesel, c'était pas bon. Le biocarburant, c'est pas bon. Donc là, on leur dit la voiture électrique. Et oh, donc il y a un problème de confiance aussi dans la parole de la puissance publique. Donc le doute, j'oppose à un moment dans le livre les marchands de doute. Et ça, c'est les lobbies qui instillent des doutes sur oui, mais bon, alors, par le passé, il y a déjà eu d'autres réchauffements, etc. Donc ça, c'est des gens qui faussent délibérément les données scientifiques, alors qu'ils ont, eux, tous les éléments, parce qu'ils sont dans ce champ académique, en tout cas, ils le maîtrisent. Et puis, j'oppose donc les marchands de doutes aux gens qui doutent, en me référant à la chanson à la très belle chanson d'Anne Sylvestre, dont il est intéressant de voir qu'elle connaît une diffusion très large depuis une petite dizaine d'années. Comme si elle correspondait un peu à l'air du temps. Les gens qui doutent, c'est des gens qui disent « Écoutez, moi, vous m'envoyez tout un tas d'informations. Je suis coincé dans ma vie pas facile. Et puis, vous me dites, voilà, il faut passer au diesel. Puis, en fait, non, il faut passer au biocarburant. Puis, en fait, non, maintenant, il faut passer à l'hybride. Puis, en fait, non, il faut passer à la voiture électrique. Et puis, eh oh, voilà. Ben, en fait, j'ai un peu du mal à vous faire confiance. Et en plus, je vois que les jets privés continuent à voler, qu'ils sont pas taxés. Vous m'avez mis une taxe carbone. Puis, en fait, vous m'avez pas dit que c'était pour baisser l'impôt sur la fortune. En fait, vous arrêtez pas de me raconter d'histoires. Pourquoi je vous croirais là plus qu'un autre moment? Donc, là, je pense que le vrai lieu de la discussion démocratique doit être sur les mesures. Et là, faut arrêter de dire, c'est évident, on sait ce qu'il faut faire. Typiquement. L'enjeu du livre, c'est de dire non, je ne crois pas qu'on sache ce qu'il faut faire. Et autant on est d'accord sur le fait qu'il faut décarboner, autant si demain un gouvernement écolo arrive au pouvoir, il va faire quoi? C'est quoi sa première année? C'est quoi ses 100 premiers jours? Ben, il le sait pas. Et je trouve que ce travail, je dis pas ça pour les coincer, je dis juste qu'il faut se mettre au travail. Et je suis sûr qu'on va trouver des choses parce qu'il y a des tas de gens qui réfléchissent à ça. Mais il faut qu'il y ait un travail politique qui mette ça en récit.
Oui, vous avez cette très très belle formule que j'aime beaucoup. Les marchands de doute et les gens qui doutent, ce n'est pas la même chose. L'écologie doit lutter contre les premiers et ne pas regarder de haut les seconds. Ça résume bien votre propos. Alors, on va en arriver à des propositions. Vous avez cette partie « Que faire ?» Parce que vous nous expliquez bien que décidément, nous ne sommes pas tous dans le même bateau. On entend souvent cette proposition. Nous sommes maintenant surtout sur le même bateau. Nous sommes tous les humains réunis parce que cela masque les inégalités. Trois inégalités donc. Et je vous cite et je vous lis. Trois moments dans la chaîne causale du réchauffement où l'individu précaire est lésé. Parce qu'il émet moins de CO2, parce qu'il en subira plus douloureusement les conséquences, parce qu'on le met en première ligne des efforts à faire pour limiter l'emballement climatique alors qu'il n'en a pas les moyens. Et effectivement, il y a ces trois grandes inégalités face au réchauffement climatique, et non, nous ne sommes pas sur le même bateau. Vous avez bien mis l'accent là dans l'interview sur les systèmes socio-techniques qui déterminent nos vies matérielles. Alors que faire? Eh bien, votre proposition, c'est de recoder l'écologie et notamment d'affirmer ceci haut et fort, les mesures de justice sociale sont toujours cohérentes avec la lutte contre le réchauffement climatique.
Et là, je suis d'un sadisme sans nom, Karl. Mais ça le suspense, c'est un peu comme un polar. Tu sais, tu coupes comme ça avant la fin et tu dis, bah, hey, demain, vous avez sur www.émissiondudictionnaire.fr ou .com, je sais plus trop bien. Mais en tout cas, vous demanderez à votre intelligence artificielle favorite, émission du dictionnaire, vous trouverez et vous aurez l'intégralité de l'interview avec Eric Hachiman. Karl, nous nous quittons avec un troisième morceau, un troisième vinyle, toujours synthé, puisque c'est la série synthé. Ah, oui. Et c'était vachement bien le deuxième morceau que t'as passé.
Oui, oui, oui.
Eh ben, on va voir pour le troisième. C'est Tuxedo Moon qui ferme cette émission. Groupe que j'ai longtemps cru européen, en fait, à tort. Ils viennent de Frisco, de San Francisco. Et bah, ils étaient un peu proches des Residents, tout ça, à la fin des années 70. C'est pour ça qu'ils commencent sur le label Ralph, le label des Residents. Et puis bah, là, on va s'écouter une compilation de Maxi, en fait. Voilà, donc il y a du synthé, mais pas que. Je vous laisse, merci.
Et juste après, t'en veux, c'est de la bonne. On continue sur Radio Campus Orléans.
Rendez-vous le mois prochain.
Nothing new to say.